Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Le 25 novembre était la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'ONU propose 16 jours, donc jusqu'au 9 décembre, pour effectuer une campagne internationale. Cette violence faite aux femmes provient très souvent des hommes, mais il existe aussi la violence psychologique provenant de femmes contre leurs pères. C'est le sujet de la semaine, un sujet qui me tient particulièrement à cœur pour y avoir consacré plusieurs ouvrages. Donc, le thème d'aujourd'hui est le bitchage entre femmes, une dure réalité. Avec nous pour en parler, notre chroniqueur Pierre Faubert, psychologue clinicien. Et après la pause musicale, je m'entretiens avec Fanny Larivière, styliste d'intérieur. Après avoir vécu 10 années de bitchage dans différentes entreprises, elle part à son compte. Restez avec nous. C'était Angèle Dubaud et la Pietà e Giorni. Bonjour Fanny Larivière, bienvenue à Terre de Femmes.
Bonjour, merci pour l'invitation.
C'est un pur plaisir, merci à toi d'avoir accepté. C'est un sujet qui n'est pas facile à parler. Donc, tu as une formation de musicienne, artiste, entrepreneur qui a œuvré à l'opéra avant d'opérer un moulin à farine en Mauricie. Tu es revenue à Montréal pendant 10 années. Tu as cumulé des emplois dans le domaine administratif. Tu pars à ton compte pour créer Jolie Fanny, une entreprise de décoration intérieure.
Tout à fait, oui.
Donc, pendant 10 ans, tu changeais d'emploi parce que tu souffrais de bitchage.
Oui, pendant 10 années, c'est une longue période parce que même des fois, quand je regarde le parcours, je suis surprise d'avoir passé autant de temps dans des milieux hostiles et toxiques. Mm-hmm. Et j'ai, en l'espace de 10 années, en fait, j'ai cumulé 13 emplois. Alors, c'est wow. Une moyenne de plus de 2 emplois par année.
Exactement, oui. C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Et ce bitchage-là promenait des femmes surtout?
À 95%, oui, okay. Des femmes et de différents milieux. C'était peu importe le milieu dans lequel j'œuvrais, ça recommençait chaque fois.
Oui, parce qu'on voit que c'était dans le domaine touristique, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la publicité, peu importe le domaine, parce que souvent on a tendance à croire que certains domaines sont plus sensible pour le bitchage, mais toi, tu as vraiment fait plusieurs professions,
oui.
Et plusieurs types d'entreprises et ça recommençait. Et qu'est-ce qui causait cette jalousie-là, finalement? Est-ce que c'était toujours la même, pour les mêmes raisons?
Moi, j'en suis venue à comprendre que c'était mon type de personnalité parce que, évidemment, je suis quelqu'un de très... dès que je rentre dans un bureau, j'ai ma personnalité propre qui est très flamboyante, je suis toujours de bonne humeur, je vais être rassembleuse, je suis très polyvalente. Alors ça pouvait créer de la jalousie ou encore de l'insécurité qui faisait que je devenais la bête à abattre. Mm-hmm. Alors tout de suite, en l'espace de quelques jours, déjà on m'avait saisie et on se disait « bon, ben, celle-là, là, on va en faire qu'une bouchée. » Là.
Est-ce que tu le sentais dès que tu rentrais, la première semaine, est-ce que tu le sentais?
Non, parce que je rentrais toujours avec des bonnes intentions et je me disais, bon, ici, ça va être différent, personne ne me connaît, je repars à neuf. Tu sais, je partais avec un optimisme là, sans borne. Là, mais, oui. Mais après, après quelques temps, on faisait vite comprendre qui était en charge et de qui il fallait se méfier. Mm-hmm. Soit que des collègues pouvaient venir me voir et me dire « fais attention à celle-là » ou
«
ou à te spotter » ou « fais attention à telle chose ». Alors, on commençait déjà à me prévenir.
Okay.
Alors, tu sais, je pouvais déjà sentir là, que « oups, fallait marcher droit
». Mm-hmm. Et toi, tu nommes ces femmes-là? Tu les appelles les
leaders négatifs.
Oui, voilà.
Oui, oui. C'est des femmes qui sont bien en poste, bien assises sur leur emploi et qui vont justement avoir mainmise sur un peu tout le monde. Donc, tout le monde les craint. On va vraiment faire attention devant elles, comment se comporter, quoi dire, mm-hmm. Quoi faire. Elles ont vraiment le champ large, là. Un peu carte blanche là, sur comment agir.
Et comment t'expliques ça?
Souvent, c'est une personne qui va être proche de la gestionnaire ou du gestionnaire, mais souvent de la gestionnaire. Et c'est une forme de collabo. T'sais, c'est un peu donnant-donnant. Donc, toi, tu vas être mes yeux et mes oreilles dans le bureau pendant que moi, je vais vaquer à mes affaires. Donc, il y a une espèce de complicité qui s'installe où les deux sécurisent leur emploi aussi. Donc, mm-hmm. Autant la personne, le leader négatif, va sécuriser l'emploi de la gestionnaire, autant la gestionnaire va sécuriser l'emploi du leader négatif. Ce qui fait que ces personnes-là, ils ont une espèce de confort, sont bien assis dans leur emploi et vont comme mener le bal, finalement.
Mm-hmm. Et toi, quand on te prévenait ou quand tu sentais que telle femme était jalouse, en fait, du fait que tu es sociable et que tu es... que tu es reluisante, en fait, tu es épatante parce que tu es aussi une artiste, donc ça vient avec, c'est dans l'habillement, c'est dans la personnalité, en fait, tu rayonnes.
C'est ça.
Et qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu essayais d'être amie avec cette femme-là ou est-ce que tu faisais attention? Qu'est-ce que tu faisais?
En fait, je faisais rien de particulier qui défendait ma personnalité parce que ma personnalité reste. C'est sûr qu'on fait attention, on se dit, bon, je vais tenter d'être... De toute façon, j'étais toujours collaboratrice, souple, avenante et tout ça. T'sais, j'ai mes qualités propres, mais je peux pas changer la façon que je suis. Donc, si, par exemple, je suis une personne rieuse, ricaneuse et je m'amuse, moi, j'ai des idées, je vais les mettre de l'avant. Alors, je peux pas me mettre le couvert, tu sais, le couvert sur la cocotte. Là, on fera pas ça, là. Ça me ressemble pas.
Donc, t'étais toi-même.
J'étais moi-même. Et c'est ça qui plaisait pas après un certain temps.
Ouais.
Oui, exactement.
Et si on regarde ta feuille de route, justement, il y a la moitié des emplois où t'es partie.
Oui.
Donc, un départ volontaire. Et l'autre moitié où on t'a congédié.
Oui, exactement. Parce que dans ces cas-là, il y a deux avenues possibles. Soit qu'après un moment, ben, tu es démotivé parce que ton travail n'est pas apprécié, on travaille dans ton dos et tout ça. Il y a même du sabotage, on t'inculpe des fautes professionnelles, on fait tout ce qui est en son pouvoir finalement pour te discréditer.
Oui.
Après un moment, là, on perd motivation et on donne son avis de départ. Ou encore, ben, à force de simuler des fautes professionnelles ou des choses, de t'attribuer toutes sortes de troubles dans le bureau, ben, à ce moment-là, on va te licencier pour ne pas rendre le travail.
Oui.
Alors, c'est ça. Il y a comme deux avenues possibles, mais oui, ça se terminait 50-50.
Donc, il y a des dossiers qui sont montés dans ton dos.
Oui, exact, exact.
Puis quand le dossier est rendu assez épais, souvent, on tombe malade avant, je pense, hein?
Il y a une forme de dépression qui s'installe aussi parce
forcément.
Que moi, je me plaisais à dire des fois le dimanche au soir, bon, ben demain matin, je retourne voir mon geôlier.
Oui.
Alors, je me sentais après un moment en prison, comme si je faisais du temps. J'avais l'impression d'être vraiment à faire du temps et d'être emprisonnée dans un emploi où je n'étais pas appréciée, où je n'étais pas bien. Et graduellement, oui, je tombais dans une forme de dépression, mais toujours en étant fonctionnelle, en étant capable de fournir le travail, mais ça s'installait et ça devenait sous-jacent à mon quotidien.
OK, parfait. Ben, reste avec nous, Fanny.
Oui.
On va à la pause musicale et au retour, on va reprendre qu'est-ce qu'on fait quand on commence à avoir des problèmes psychologiques et physiques aussi.
Exact.
Merci.
Jeder hat das Mittel der Gesellschaft, das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates bewusst der wirtschaftlichen, sozialen und Thank you.
Prélude de 6, Max Richter. Je suis toujours en compagnie de Fanny Larivière qui a démarré son entreprise après avoir vécu de nombreuses années à subir du bitchage. Donc, on parlait avant la pause musicale qu'on devient malade parce que forcément, c'est du harcèlement psychologique, c'est de la violence psychologique. Donc, on perd pied, on perd contrôle de la situation de nous-mêmes, on perd confiance en nous.
On perd confiance en nous, on vient qu'à douter de nous. Il y a plusieurs, dans un milieu défavorable, il y a plusieurs choses qui s'installent. On va avoir, par exemple, la difficulté à se concentrer, on va avoir de la difficulté à prendre part aux décisions parce qu'on vient qu'à douter de soi. Mm-hmm. On va avoir de la difficulté à faire confiance en ses capacités, à ce qu'on peut offrir en termes de travail. On va être moins productif aussi, alors le travail ralentit. On ne se projette plus dans l'avenir de l'entreprise. Là. On n'est plus là. Donc, on commence aussi à avoir un taux d'absentéisme plus grand.
Oui.
Je l'ai vu souvent aussi, pas juste moi, mais des collègues. Donc, un haut taux d'absentéisme, c'est souvent un signe qu'il y a un problème.
Oui.
Et puis, bon, on a de la difficulté à participer, à interagir avec les autres parce que là, on vient qu'à s'isoler.
Oui.
Et graduellement aussi, on t'isole.
C'est ça le but, hein?
Le but, c'est d'isoler aussi. Alors, moi, ce que je voyais souvent aussi, c'est qu'on te retire les dossiers un à un, petit à petit, ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as plus de contact avec les autres parce que là, tu n'as plus de réunion d'équipe. T'as plus de dossier, t'as plus de courriel dans ta boîte, t'as plus d'appels téléphoniques. Mm-hmm. Alors là, tu te retrouves complètement seule dans ton bureau.
Oui.
Et là, tu pleures.
Oui. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas voir le gestionnaire? Est-ce que tu en parles ou tu gardes ça en dedans de toi et tu culpabilises?
Oui, tu culpabilises. Tu penses que c'est toi le problème. Oui. Il y a beaucoup ça aussi. Il y a une honte qui s'installe. Tu culpabilises. Tu ne sais plus à quel sein te vouer non plus là, parce que tu dis, si je vais voir la gestionnaire qui, elle, est main dans la main avec le leader négatif, parce que pour l'avoir fait, d'aller me plaindre au gestionnaire, c'est pire.
Oui.
Parce que là...
Ça se tourne contre toi.
Ça se tourne contre toi. Ouais. Parce que là, le leader négatif va, en quelque sorte, dire, ben écoute, là, tu me dénonces, là, l'enfer est sur terre.
Oui.
Alors, c'est pas la... Des fois, je me dis, oui, il faut dénoncer, mais des fois, c'est pas la chose à faire non plus. Mm-hmm. Et d'en parler aux autres dans le bureau, ça non plus, parce qu'évidemment, il y a comme une espèce d'omerta, personne ne veut parler. Mm-hmm. On va dire les choses tout bas, en dehors du bureau, ou le midi, en allant dîner à l'extérieur et tout ça, mais... Il n'y a personne qui veut dénoncer, personne ne veut en parler. Oui. Donc, c'est ce silence-là là, qui est lourd.
Il y a des choses aussi qui sont difficiles à expliquer, qui sont à dénoncer, mais il y a des choses qui ne sont pas dénonçables. C'est-à-dire, je sens que la personne sabote mon travail, mais je n'ai pas de preuves. Bon, ben, c'est délit. Qu'est-ce que tu veux aller dire?
C'est ça.
Puis tu le ressens, puis tu sais que ton ressenti est bon.
Est bon, oui.
Alors parce ça, c'est compliqué.
Oui, parce qu'il faut se fier à son instinct. Moi, je suis hautement instinctive, donc je pouvais même sentir quand la personne se dirigeait dans le bureau de la gestionnaire, je me disais, il parle de moi.
Okay,
puis c'est pas des fabulations.
Non,
parce
ça s'appelle la paranoïa.
Non, parce que je voyais le ricochet tout de suite après, je voyais les retombées de ça parce que je me disais, là, on vient de me retirer le dossier. Okay. Là, on vient de faire telle action. Alors, c'était pas une fabulation, là. Je le sentais bien. Et dans les semaines qui suivaient, il y avait un licenciement. Donc, ça se préparait tout ça, là.
Sur le plan social aussi, sur le plan psychologique, sur le plan physique, mais sur le plan social aussi, c'est difficile. Parce que quand même, changer d'emploi en 13 ans, 10 fois, ou l'inverse. et les gens te disent, ouais, ben, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais? Et là, on devient un peu, on se sent un peu la reject. On se sent...
Encore là, la
honte.
On
pense que c'est nous, hein?
Oui,
problème.
On pense que c'est nous. Moi, je suis jusqu'à aller en psychoéducation. J'ai travaillé aussi. Je suis allée avec une travailleuse sociale. Parce que t'essaies de démêler tout ça dans ta tête. Tu ne comprends plus, à un moment donné, tu deviens mêlée. Puis tu t'attribues beaucoup l'échec. Alors, tout ça mis ensemble...
Incapable de m'insérer dans un milieu de travail,
incapable
peut-être,
de m'insérer. Hein? Est-ce que je suis incompétente? Est-ce que c'est ma personnalité? Alors, tout ça vient que tu viens qu'à, justement, encore là, douter de toi. Il y a une très, très grande dévalorisation parce qu'on se définit par le travail.
Oui.
Et là, n'ayant pas un travail fixe, t'as plus de personnalité, t'as plus de valeur. Alors, ça devient très, très difficile, très lourd et difficile à expliquer aussi quand tu rencontres les gens, parce que les gens, des fois, te demandent « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Moi, je n'avais plus aucune réponse.
Oui, je comprends.
Je n'avais plus de réponse. Alors, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu plonges. Mm-hmm. Tu deviens de plus en plus dépressif. Et
les dimanches soirs deviennent affreux.
Affreux, parce que c'est ça, tu as l'impression que la vie, de lundi au vendredi, la vie est une prison.
Oui.
Et un enfer auquel tu t'échappes seulement que le vendredi. Puis moi, en dépression, on dort toute la fin de semaine.
Oui.
Oui, parce que là, on essaie de se refaire mentalement et physiquement, parce qu'on est à bout.
Mm-hmm. Ouais. Et toi, tu es allée dans une dépression profonde, même à penser au suicide?
Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'habitais à ce moment-là au bord, pas très loin du canal de la Chine.
Oui.
Et je marchais pour me rendre au travail parce que financièrement, bon, j'essayais d'économiser de toutes les façons possibles. Donc, je marchais pour ne pas payer des billets d'autobus. Alors, je me rendais au travail à pied. Et tous les matins, je passais au canal de la Chine,
par-dessus
le canal. Et je regardais en bas en me disant, c'est-tu ce matin que je me jette en bas?
Oui.
Alors, à un moment donné, dans les étapes suicidaires, en fait, il y a une idéation où maintenant on fixe notre projet et il y a une absence d'émotion.
Oui, OK.
Et moi, j'en étais rendue à l'absence d'émotion où là, j'avais fixé mon plan et j'allais mettre mon plan en exécution.
Wow.
Oui. Et
c'est troublant. C'est troublant.
Et la chose qui m'a arrêtée, parce qu'un matin où j'allais le faire, et ce qui m'a arrêtée, c'est ma fille, parce qu'elle a compris ce matin-là, elle dit « Maman, tu vas pas bien, il faut vraiment que tu ailles chercher de l'aide. »
Oui.
Oui.
Et tu es allée chercher de l'aide?
Et je suis allée chercher de l'aide, et c'est à ce moment-là que j'ai été entrepris par le CLSC de mon quartier, et que j'ai commencé à suivre avec une travailleuse sociale, un psychoéducateur, mon médecin de famille, tout ça, que j'ai commencé à me refaire mentalement, physiquement. Et ça a pris du temps, ça a pris quand même 3 ans pour passer à travers et comprendre que je n'étais pas en faute, que c'était pas moi, que tout ça était un choc post-traumatique que j'avais vécu et qui, avec le choc, à un moment donné, le corps n'encaisse plus.
Effectivement. Et là, tu as décidé, en fait, tu t'es mis comme une date une date butoir. Tu t'es dit, bon, ben écoute, l'entreprise, c'est pas pour moi, je vais démarrer mon compte. C'est quoi mes compétences?
Oui, en fait, c'est
que... c'est un peu ça qui t'a sauvé.
Oui, oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, sinon je meurs. Mmh. Alors, je me suis dit, t'as rien à perdre, il tente le tout pour le tout, là, parce que... Sinon, tu t'en vas pour le canal, là.
La difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout le temps laisser notre emploi, même si on sait c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse, parce que financièrement, on est coincé.
C'est ça. Par contre, moi, j'appelais ça mon plan d'évasion. Ça se prépare.
Oui.
Si ça prend 3 ans, creuser un tunnel avec une cuillère, on va le faire.
Oui.
Alors, mon plan d'évasion, moi, c'est... Je me suis dit, qu'est-ce que je peux offrir que les gens achèteraient?
Mm-hmm.
Quel talent est-ce que j'ai? Bon, j'ai déjà été musicienne, j'ai déjà eu une entreprise, mais qu'est-ce que je peux offrir pour dire que, bon, maintenant, je pars à mon compte et les gens vont acheter ce que j'ai à offrir. Mm-hmm. Et j'ai décidé de partir Jolie Fanny, qui est un service de décoration, peinture et décoration intérieure. Mais ça m'a pris 3 ans à cogiter sur le comment je vais le faire, sur mon branding, le logo, ma mise en marché, tout ça. Et
amasser des fonds.
Et amasser des fonds, exactement. Et à partir du moment où j'ai pris ma décision, où j'avais un but, j'avais un plan, je continuais pareil à subir le harcèlement psychologique et l'intimidation.
Oui.
Mais j'avais une sortie.
Et pourquoi, d'après toi, Fanny, les femmes sont plus, je pourrais dire, méchantes envers les autres femmes?
Moi, ce que j'ai remarqué de ce type de personnes, parce qu'il y a vraiment un profil type aussi, j'ai remarqué que c'est soit des gens qui étaient insécures, qui, par exemple, se valorisaient en écrasant les autres.
Oui.
Donc, c'est des gens qui sont soit insécures, qui n'ont pas nécessairement les compétences pour occuper le poste, mais en ayant un acolyte comme gestionnaire, elles sont bien assises en poste et pour ça, elles ont besoin de faire démissionner les autres. Et souvent, c'est plate à dire, mais ce sont des femmes qui ne sont pas nécessairement jolies ou féminines.
Mm-hmm.
Ils vont jalouser les femmes qui, justement, vont prendre soin d'elles, vont être flamboyantes. Alors, c'est quelque chose qui revient souvent que Moi, à un moment donné, je me suis aperçue que c'était un type de personne aussi qui faisait ces actions-là.
Oui, je comprends.
Ouais.
Ben, merci infiniment, Fanny. Je sais pas comment. Fanny Larivière, qui est venue nous parler courageusement de bitchage, parce que c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent le faire parce qu'elles sont encore en emploi et elles ont peur de perdre leur emploi. D'autres sont tenues par le silence ou l'égal, c'est-à-dire qu'elles ont signé parce qu'elles sont allées. Bon, elles ont dénoncé. Alors, c'est pas évident, mais merci beaucoup de ta générosité. Et on souhaite longue vie à jolie Fanny. Hein?
Merci.
Merci beaucoup, Fanny.
Et merci de l'invitation. C'est un sujet hyper important.
Oui, c'est important d'en parler.
Il faut en parler.
Il y a beaucoup de femmes qui souffrent présentement. Merci. Restez avec nous. Pierre Faubert, psychologue clinicien, notre chroniqueur, se joint à nous.
Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
Vous aimez nos émissions? Vous pouvez les écouter sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com et sur marthesaintlaurent.com et également en balado-diffusion. En deuxième partie de l'émission, notre chroniqueur Pierre Faubert, psychologue clinicien, est en studio après la pause musicale. Killing for Love de José González. Je rappelle le thème de l'émission d'aujourd'hui, le bitchage entre femmes, une dure réalité. Et oui, la violence psychologique. Bonjour Pierre Faubert, psychologue.
Oui, bonjour Martin Laurent.
Notre chroniqueur.
Oui.
Bon, ben écoute, je pense que tu as pu entendre, en fait, l'entrevue avec Fanny et moi, Fanny Larivière, donc, qui parlait de son... qui témoignait, en fait, de toutes ces années qu'elle a connues de bitchage, donc, entre femmes.
Oui.
Tu penses quoi de ça, toi, en tant qu'homme psychologue?
Ben, en fait, je trouve que les femmes peuvent être très dures entre elles. Cette dureté, elle est plus dans l'ordre du soft, même si c'est contradictoire, semble-t-il. Mais oui, c'est vrai, chez les hommes, chez les adolescents et adolescentes, les garçons sont plus violents physiquement. Chez les femmes, c'est un processus d'élimination par des gestes qui sont plus subtils, hein,
oui.
Beaucoup plus subtils. Et aussi avec ce que les femmes ont de plus, je dirais, développé au sens de la communication, c'est-à-dire le verbal.
Oui.
Et la femme communique aussi beaucoup par le corps et par son habillement, par ses plumes, si vous voulez. Okay. Et donc, à ce moment-là, c'est plus dans la visibilité. Et donc, si on parle des sens, là, ce sont les yeux et l'ouïe. Et donc, les femmes vont utiliser ces moyens-là pour se discréditer. Mais c'est vraiment un processus d'élimination. Hein. On l'a vu avec le témoignage de Fanny, comment finalement ces femmes-là ont réussi à l'éliminer de leur milieu.
Mm-hmm.
Elle a parlé de prison, puis c'est exactement ce à quoi je pensais quand je l'écoutais. Ça peut se passer dans tous les milieux où on est dans un environnement fermé. Et à ce moment-là, c'est, comme on dit en anglais, « the survival of the fittest hein? ».
Oui.
C'est la loi darwinienne de l'évolution et de la loi du plus fort, ou ici, dans ce cas-ci, la loi de la plus forte.
Oui, et souvent, elles ont besoin, Fanny les appelait les leaders négatifs.
Oui.
Elles ont besoin d'un attroupement, d'un groupe, elles ont besoin, tu sais, elles vont quand même propager du mémérage, du commérage, à juste titre ou pas du tout. Des fois, c'est inventé, des fois, c'est toujours issu de la jalousie, donc ça peut être l'habillement,
oui,
ça peut être...
Oui, et surtout si la leader en question sent la menace d'une personne qui arrive dans le groupe et qui pourrait éventuellement la déplacer,
hein, oui.
Prendre sa place. Donc, elle va donner comme proie cette personne-là qui va satisfaire, excusez l'expression, est vraiment brutale, mais charognard, c'est-à-dire les personnes qui vont se nourrir des cadavres.
Oui.
Et donc, de ce qui est finalement non désirable, mais la leader va les offrir cette personne-là ou ces personnes-là plus... vulnérable d'une certaine façon à celles qui vont, d'une manière ou d'une autre, la remercier pour ce que cette leader, entre guillemets, leur a offert comme proie.
Mais quand tu parles de vulnérabilité, est-ce qu'on entend que les femmes qui sont victimes de bitchage sont vulnérables ou sont plus faibles? C'est ce qu'on croit, mais on le croit à tort. Je crois souvent que ce sont des femmes de caractère, justement, qui dérangent.
Ben, en fait... Sur quoi est-ce qu'on se base pour bitcher contre quelqu'un? C'est surtout ce qui est superficiel, hein, finalement. On ne s'attaque pas au caractère, à l'intégrité, finalement, de l'individu, parce qu'on n'a pas accès à ça, mais on peut ébranler la personne, la femme, dans cette question, dans ce problème ici, sur les points qui lui sont chers, finalement.
Mm-hmm.
Et donc, on a beau dire, oui, on est forte, mais si notre force est dans nos apparences et puis dans certaines qualités ou caractéristiques qui sont plus dans l'ordre du physique ou du superficiel, quand je dis superficiel, c'est pas au sens péjoratif, là, je veux dire, c'est à la surface.
D'accord.
Donc, à ce moment-là, si la personne tient à ces choses-là, elle devient vulnérable, malgré toutes les autres qualités qu'elle peut avoir. Mais, par exemple, elle peut être super intelligente, elle peut avoir un bon jugement, un bon discernement, des belles capacités, des belles qualités d'organisation, etc. Mais justement, c'est parce qu'à ce moment-là, elle devient menaçante.
Oui, bien sûr.
Ben oui, elle devient menaçante pour celle qui est en place et qui est disons, responsable du groupe. Et à ce moment-là, on va s'attaquer aux choses... Parce que, aux choses sensibles... Et ça se détecte. Hein. J'ai pas l'impression qu'on va passer à l'acte de bitchage dès le début. Oui, probablement sur certains points, mais les gens, toutes les personnes font ça. Tous les humains font ça, que ce soit homme ou femme. Quand on rencontre quelqu'un, on le scanne.
Mm-hmm, oui.
On fait un scan.
Oui.
Du haut de la tête jusqu'aux pieds, là, on la scanne, cette personne-là. Pourquoi? Parce que, quelque part, là, c'est notre survie. On veut savoir, est-ce que cette personne-là, elle est menaçante? Est-ce que je peux contrôler cette personne-là? Est-ce que je peux être allié avec cette personne-là? Est-ce que je peux faire quelque chose avec elle?
Oui.
Etc. Mais c'est surtout pour voir, est-ce que cette personne-là est menaçante? L'autre chose que j'ai découvert dans tout ça, c'est que ça se passe surtout entre femmes fécondes. Autrement dit, des femmes qui peuvent être en âge de porter des enfants.
Ah bon? T'as vu ça, toi?
Oui. Oui.
OK.
Oui. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est, pour la plupart des femmes, c'est important, ça, d'avoir des enfants, éventuellement. Et donc, on veut éliminer les plus faibles. Et donc, c'est dans ce sens-là que on est dans la loi de la jungle ici. Là.
Mais il y a quand même des femmes, Pierre, qui sont dans la soixantaine et qui sont victimes ou qui sont bourreaux. Moi, je les appelle les bourreaux.
Oui, parce qu'elles ont fait ça toute leur vie.
Oui.
Elles ne changeront pas à 60 ans.
Mais là, on n'est plus à l'âge de procréer.
Non, mais on est dans l'âge du pouvoir. T'sais, dans le fond, la procréation, c'est un pouvoir.
Oui.
Et c'est aussi un pouvoir pour beaucoup de gens qui est un pouvoir désirable. Et puis, c'est aussi... une réussite pour beaucoup de femmes d'avoir des enfants, puis d'élever leurs enfants, puis d'avoir un conjoint.
Mm-hmm.
Et ça aussi, c'est un autre facteur, le fait d'être apte à pouvoir se trouver un compagnon.
Oui.
Ou une compagne, si on préfère une autre femme. Mais il reste que il y a une compétition pour ça aussi.
Oui, bien sûr.
Alors donc, on est dans la compétition, vous avez parlé
dans
la jalousie tantôt.
Oui.
Mais c'est parce que on pense que l'autre, ou on sent que l'autre a quelque chose qu'on n'a pas.
Oui, ça c'est clair.
OK.
On sent menacé.
Oui, c'est ça. Alors
oui,
donc,
on sent la menace.
Oui, et c'est pour ça. Vous savez, c'est comme des hyènes, là, les hyènes. C'est en meute, hein? C'est comme...
Oui. C'est très animal.
Oui, c'est très animal. C'est très animal, c'est la meute, et puis la meute, elle va isoler, comme Fanny disait, elle va se sentir isolée, finalement, elle va s'auto-éliminer.
Oui,
c'est-à-dire
dans
qu'elle
un
va,
sens.
Dans un sens, elle va choisir de partir, ce qui est, dans certains cas, sage, parce que moi, si j'étais entouré d'hyènes, je préférerais ne pas être là que d'essayer de me battre contre ça. Mais c'est ça. Mais il y a toujours une question d'avantage là-dedans. La femme, tu sais, on cherche souvent des solutions à tous ces problèmes-là.
Oui.
Alors, la femme peut se demander, la femme qui est victime de ce genre de bitchage, mais elle peut se demander, mais qu'est-ce que j'ai? T'sais, on entendait Fanny dire, qu'est-ce que j'ai que je pourrais utiliser en dehors de ce milieu?
Oui.
Mais qu'est-ce que j'ai que je pourrais utiliser dans le milieu?
Mm-hmm.
Moi, je pensais que c'est là qu'elle s'en allait. Mais autrement dit, qu'est-ce que je peux donner comme nourriture à mes prédatrices, si vous voulez? Et donc, à ce moment-là, les satisfaire et puis jouer leur jeu, mais être plus fine qu'elle.
Le problème, Pierre, c'est que souvent, on s'en aperçoit et on est déjà affaibli.
Oui.
Tantôt, tu parlais de vulnérabilité.
Oui.
Ben, souvent, quand on s'en aperçoit comme c'est des dossiers qui sont montés dans notre dos,
oui.
que ça se fait doucement, lentement, mais sûrement... tu vois, ça, c'est long avant qu'on s'en aperçoive et souvent, quand on s'en rend compte, il faut premièrement avouer qu'on est victime de bitchage parce que ça ne nous fait pas tellement une belle jambe,
là,
sans vouloir faire de jeu de mots. Et après, on est souvent affaibli, donc on n'a plus l'énergie, on n'a plus la créativité, on n'a plus la force pour contrer. Puis là, souvent, c'est rendu dans le groupe, là, c'est plus juste... Le leader négatif, c'est la gang au complet, la meute.
Ah oui. Oui, mais ça, moi, j'appellerais une culture. J'appellerais ça une culture de l'entreprise ou en tout cas du milieu dans lequel se trouvent ces femmes-là. Et si c'est pas elle, si c'est pas moi, ça va être une autre. Il va toujours, on va toujours en choisir une. Et puis quand il y en aurait plus, on va en choisir une parmi le groupe.
Oui, bien sûr.
Hein? Parce que c'est ça, c'est la culture. J'ai besoin de ce genre de nourriture. Pour me sentir importante.
Oui.
Hein, de sentir que... Mais vous savez, ça, c'est malheureusement, c'est des gens qui ont pas de vie. Hein.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas de vie, ces personnes-là. Et je
j'ai souvent pensé ça, moi aussi.
Non, ils n'ont pas de vie. Quand je dis ils n'ont pas de vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas quelque chose de plus élevé dans leur vie qui donne un sens qui est un peu plus transcendant. Je parle pas de religion, mais je parle de quelque chose qui amène à plus...
Une vie intérieure.
Une vie intérieure qui tient compte de la dignité de l'autre.
Oui. Hein?
L'autre, là, c'est vu comme une chose et comme un objet que finalement, c'est pour ou contre moi. C'est comme disait, je sais plus, je pense que c'était un des présidents des États-Unis qui disait « If you're not with me, you're against me.
Ben » oui.
Comment on dit, hein?
Oui, t'es avec ou t'es contre.
C'est ça, exactement. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de possibilité de travailler de façon harmonieuse avec une autre personne dans le respect de la dignité de l'autre.
Reste avec nous, Pierre, on continue avec la dignité juste après la pause.
Okay.
Merci.
Tu ne m'inspires rien. Tu crées tout toi-même. Et je m'abaisse comme un chien qui te tendra sa chaîne pour ramasser au chemin quelques miettes que tu laisses, que tu auras laissé tomber de ta main. Mais rendez-vous 60 jours, et si le temps des jours accroît sur notre amour.
Nous sommes
Lydia Kipinski, 360 jours. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Faubert, notre chroniqueur et psychologue. Il est question de bitchage aujourd'hui. Donc, pour la dernière partie de l'émission, Pierre, on était justement dans... qu'est-ce qu'on fait quand on a la meute et tout? Il y a aussi les entrepreneurs qui font rien, qui savent pas comment gérer ça, parce que dans les entrepreneurs, quand ils sont à l'université, on leur enseigne pas à gérer ce genre de conflit-là, on leur enseigne à faire de la gestion de personnel ordinaire. Mais ces conflits-là qui sont très graves, il y a beaucoup de gestionnaires qui disent « arrangez-vous les filles, c'est des histoires de bonnes femmes ». Moi, je l'ai déjà entendu.
Oui, parce que, en fait, vous savez, ça me fait penser à des couples qui viennent me voir des fois, et puis souvent, ça revient, les problèmes du ménage, qui sort les poubelles, qui fait ci, qui fait ça. Mais le problème est beaucoup plus profond que ça. Et les femmes qui font du bitchage sont, en fait, en train de souffrir elles-mêmes. C'est leur manière de gérer des conflits, ce que j'appelle des conflits intrapsychiques, dans le sens où elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes en train de lutter contre des surmoi, des valeurs qui leur ont été inculquées, des introjections des parents, des propres insatisfactions, des sentiments d'humiliation, etc., qu'elles ont vécu. Et elles vont faire vivre aux autres ce qu'elles ont vécu.
Mm-hmm.
Alors, pour moi, si on veut trouver vraiment des solutions en profondeur, parce que sinon, là, on va mettre chacun dans sa cubicule ou son cubicule, et puis on va la laisser là, puis on va dire, ben tu restes tranquille. Mais, ça ne règle pas le problème.
Mm-hmm.
Parce que, en dessous au-delà de toutes les souffrances, il y a quelque chose qui a été vécu où il y a eu une infraction, on appelle ça une infraction, je le disais dans d'autres émissions, c'est un trauma, qui fait en sorte que je me sens impuissante devant ce que j'ai vécu, et je veux faire sentir aux autres cette impuissance-là.
Ah, ça, c'est pour le faire sentir aux autres, ils font le sentir
exactement,
aux autres.
Exactement,
ouais.
Exactement.
Elles sont
alors,
très bonnes
donc, là-dedans. Alors, la solution, elle est beaucoup plus profonde que la simple gestion, comme tu le disais, on met une personne à telle place, puis l'autre à l'autre place, puis on pense que ça va se régler. Mais ça ne se règle pas.
Non.
C'est pas comme ça.
Mais avec la discussion, c'est possible?
Si j'étais dans cette position-là, ben j'essaierais... d'amener les gens ensemble, puis de parler le plus ouvertement possible.
Okay, ça, c'est un peu compliqué quand la victime est rendue très faible. C'est comme si t'assoyais, en fait, l'homme qui bat sa femme avec sa femme qui est battue, puis désarrangée. Non, c'est pas comme ça.
Je pense pas que je mettrais la personne qui est victimisée là,
okay,
avec ce groupe-là.
OK, d'accord.
Non. Parce que c'est évident qu'on voit laquelle... des personnes est victimes.
Mm-hmm.
Alors non, il faut parler. Parce que si un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise estime ses employés,
mm-hmm,
on ne veut pas les perdre. Puis, le bitchage, c'est une partie de la culture de cette entreprise-là. C'est une dimension des activités de l'entreprise.
Mais...
parce que l'entreprise, c'est pas une entreprise de bitchage.
Non, sauf que
choses.
Ça fait du ravage. Quand, tu sais, on parlait de Fanny qui disait qu'elle est en arrêt de travail, en congé de maladie.
Oui.
Je veux dire, souvent, quand tu gardes un pilier négatif comme ça, je veux dire, ça te coûte cher. Ça coûte cher à ton entreprise.
Oui, mais...
elle en envoie trois en arrêt de travail.
Oui.
Elle en fait démissionner deux autres.
Oui.
Tu vois, c'est, à un moment donné, c'est coûteux pour l'entrepreneur.
Ben oui, exactement. Alors, c'est pour ça que cet entrepreneur ou entrepreneur devrait, à ce moment-là, essayer de rassembler ces éléments qui sont forts et d'avoir une discussion franche avec ces personnes-là,
mm-hmm,
pour voir mais qu'est-ce qu'on fait ici. On est en train de miner, finalement, de s'auto-saboter, de s'auto-cannibaliser. Et donc, à ce moment-là, on va se détruire.
Mm-hmm.
Et si vous pensez que c'est en essayant de détruire cette personne-là ou en l'éliminant que vous allez réussir à améliorer notre condition entrepreneuriale, ben vous vous trompez. C'est comment on peut intégrer cette personne-là. La victoire n'est pas dans l'élimination de la personne. La victoire, c'est comment on va faire pour gérer et intégrer une personne qui est différente. Hein? Il y a eu des recherches à l'Université d'Ottawa. Il y a deux chercheurs, là, Vaillancourt et puis Charmant, qui ont travaillé là-dessus. Et puis, elles ont fait cette expérience-là. Elles avaient quelques femmes, plusieurs femmes là, dans une salle. Il y a une femme qui arrive, décolletée, puis tout ça, puis bien chic. Et bon, évidemment, elle devient l'objet de bitchage. Oui. Et puis, la même femme dans un autre groupe de femmes, mm-hmm. habillée vraiment plutôt sobre.
En jeans, hein.
En jeans ou kaki ou whatever. Oui. Elle n'est pas du tout...
Menaçante.
Oui. Alors, il y a ça aussi. C'est-à-dire que, oui, on peut dire, ouais, j'ai une personnalité flamboyante, mais si je veux m'adapter aussi à un groupe, mm-hmm. c'est pas une défaite de comprendre que, ben, peut-être que j'arrive avec mes gros sabots et je dérange ce monde-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de voir dans quelle mesure je pourrais aussi m'adapter et puis sans me nier, me renier, mm-hmm. mais si je tiens absolument à ce travail, ben, voir comment je peux, sans me perdre, mais trouver les moyens pour m'intégrer dans ce groupe.
OK, mais tantôt aussi, tu disais, Pierre, que si c'est pas elle, ça va être une autre. Donc, me semble-t-il que la personne qui doit s'adapter, c'est pas celle qui crée c'est pas celle qui est victime du problème, mais celle qui le crée, non?
Écoute, ça va toujours, c'est un va-et-vient, hein, cette affaire-là. On le disait dans d'autres émissions, là, quand on parlait d'arnaquage, par exemple. Oui. S'il y a de l'arnaquage, parce qu'il y a des poissons.
Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui se laisse arnaquer.
Ben oui, puis il y a des poissons. Oui. Puis tu sais...
Est-ce que ces femmes-là, Pierre, sont conscientes qu'elles détruisent les autres? Est-ce que c'est volontaire jusqu'à un certain point?
Ben, c'est-à-dire que je pense qu'elles veulent éliminer cette personne-là.
Mais est-ce qu'elles en sont conscientes qu'elles veulent éliminer?
Ah, peut-être pas. Peut-être pas. C'est-à-dire que c'est... Non, c'est pas nécessairement... Le but n'est pas d'éliminer cette personne-là, quoique il y en a qui vont se le dire, puis c'est leur mission.
Oui,
là,
je vais avoir ta peau, j'ai des entendus aussi, hein? Je vais avoir ta peau.
Exactement.
Oui.
Mais il y en a d'autres, c'est plus par défense elle-même. Mm-hmm. Elles se défendent elles-mêmes
oui.
contre ce qu'elles ressentent comme étant une menace de cette nouvelle arrivée qui mm-hmm. me semble... Wow. Elle est au-dessus de ses affaires, elle est bien habillée. Et puis c'est évident qu'une personne qui arrive dans un groupe, une nouvelle personne, ne veut pas décevoir. Mm-hmm. Donc, elle va en mettre pour qu'elle puisse être appréciée des autres.
Oui.
Mais c'est là que je dis, si après quelques jours, quelques semaines, elle se rend compte que ouais, ben, je ne fais pas tout à fait là, dans le décor,
oui.
ben, peut-être que je pourrais m'adapter.
Mm-hmm.
Et aussi, un autre facteur, c'est qu'est-ce que je vis à l'extérieur de mon travail? Parce que pour certaines personnes, le travail, c'est tout.
Oui.
Et si je perds ça, je perds tout.
Mm-hmm.
Alors donc, c'est peut-être aussi...
L'enjeu qu'on y met.
Oui, c'est aussi une occasion de poser la question... Qu'est-ce que je vis à l'extérieur de mon travail?
Mm-hmm.
Est-ce que ça me donne de la force? Si je suis victime chez moi, il y a des moins de chances que je vais être victime à mon travail.
Ben, merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment éclairant. Écoute, on va essayer, on va continuer à réfléchir sur la chose et j'espère qu'on a aidé les femmes qui sont victimes de bitchage. Je pense qu'on a aidé les femmes. Donc, merci, un immense merci à toi, Pierre, à Fanny Larivière, et à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Alors, Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation d'Eleanor Roosevelt. Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les petits esprits discutent des gens. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.